Peut-on produire une expertise scientifique au-dessus de tout soupçon ? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Depuis des décennies, la science est la cible d'attaques dès lors que ses découvertes touchent de puissants intérêts commerciaux. Des individus dans le déni de la science ou financés par des intérêts industriels déforment délibérément des preuves scientifiques afin de créer une fausse impression de controverse. Cette manufacture du doute a retardé des actions préventives et eu de graves conséquences pour la santé des populations et l'environnement. C'est ainsi que commence la tribune, publiée la semaine dernière dans Le Monde, signée par une centaine de scientifiques internationaux et consacrée à la question des perturbateurs endocriniens. L'Europe s'apprête à adopter une réglementation sur ces substances, considérées comme dangereuses pour la santé et le système hormonal, mais une réglementation à minima, selon les signataires de la tribune. Ils considèrent qu'elle rendra en tout cas très difficile l'apport de la preuve de leur nocivité, que les lobbies industriels ont réussi à instiller suffisamment de doutes pour être relativement épargnés. Alors comment lever ce doute, alors que les connaissances scientifiques semblent suffisantes aujourd'hui pour mener une action forte contre les perturbateurs endocriniens ? Eh bien, un moyen efficace, écrivent encore les scientifiques, ce serait de créer un équivalent du GIEC, un organisme chargé d'évaluer les connaissances en la matière en toute indépendance, comme cela est fait dans le domaine du climat. Alors, c'est une réflexion qui repose la question plus large, cette fois, de la production d'une expertise qui soit, si ce n'est irréfutable, du moins à l'abri des controverses permanentes. Mais peut-on produire une expertise scientifique au-dessus de tout soupçon ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à nos trois invités, à commencer par vous, Barbara Domenex, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes biologiste, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, membre de l'Endocrine Society.
Absolument.
Juste d'un mot, de quoi s'agit-il ?
Ben, c'est une société qui regroupe des endocrinologues de manière globale, 18 000 membres, et qui prend une position très 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 forte pour dire qu'il y a un problème, il y a un problème de santé humaine qui touche aussi la biodiversité et il faut agir.
Voilà, c'est cette Endocrine Society voilà, qui est à l'origine de cette tribune que vous avez signée dans le monde. Enfin, pas seulement, mais en tout cas, voilà,
oui,
il y a un certain nombre de
demandes.
Énormément
de choses,
voilà.
Oui.
Et puis vous avez par ailleurs publié chez Odile Jacob cette année « Le cerveau endommagé, comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale. » J'évoquais Le Monde, c'est un journal que vous connaissez bien. Stéphane Foucard, bonsoir.
Bonsoir.
Puisque vous y êtes journaliste en charge des questions scientifiques et vous avez publié, je ne sais plus quand c'était, mais enfin, en tout cas c'est un ouvrage qu'on trouve aujourd'hui en format poche, en folio, « La fabrique du mensonge, comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger. » Et puis notre troisième invité, Mathias Girel, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur des études du département de philosophie de l'ENS, vous travaillez notamment sur la production du doute et de l'ignorance. Vous dirigez par ailleurs le Centre d'archives en philosophie, histoire et édition des sciences. Alors nous allons parler de la question des perturbateurs endocriniens, mais je voudrais qu'on commence par évoquer, peut-être un petit peu brièvement, mais par l'évoquer quand même, cette question qui concerne et qui interroge beaucoup de Français ces jours-ci, c'est cet épisode de forte pollution aux particules fines. Forte pollution et par ailleurs longue pollution, puisque c'est sur une durée qui est relativement inédite, en tout cas pour la saison. Et puisque c'est un petit peu la fête du journal Le Monde, je vais encore citer un extrait d'un article que j'ai lu cet après-midi et qui dit ceci: « La France n'a pas pris la mesure des enjeux sanitaires de la pollution de l'air. Les gouvernements successifs ont dû durant des années, subventionner la motorisation la plus polluante, à savoir le diesel. » Est-ce que vous diriez les uns et les autres que c'est un cas finalement assez exemplaire de la difficulté qu'il peut y avoir à traduire des connaissances scientifiques en décisions politiques, a fortiori quand il y a des intérêts industriels et commerciaux qui sont derrière? Stéphane Foucard.
Ah bah oui, c'est même l'exemple type, hein, c'est un paradigme. Peut-être pas forcément sur l'expertise en elle-même, c'est-à-dire la constitution d'un corpus de connaissances qui permet de prendre une décision, mais sur la manière dont cette connaissance a été ensuite transformée en action, plutôt n'a pas été transformée en action publique, puisque les émanations du diesel, on sait depuis la fin des années 50, de manière à peu près certaine, qu'elles contiennent des éléments qui sont cancérogènes. Elles ont été officiellement classées plus d'un demi-siècle plus tard par l'OMS comme des cancérogènes certains pour l'homme. Et pourtant, il n'y a toujours pas d'action publique à la hauteur de l'enjeu. Ça ne veut pas dire que l'expertise a toujours été défaillante ou que les experts des organismes de recherche publique qui ont été commis hein, au fil des années pour réfléchir à ces questions ont menti, ont tordu la réalité, etc. Mais plutôt, en l'espèce, que ce qu'ils ont dit n'a pas été écouté. Et la meilleure preuve, c'est qu'en 1997, un rapport, une expertise collective a été commandée par le CNRS à toute une palanquée de chercheurs de diverses disciplines sur le sujet, et qu'il y avait déjà à l'époque, en 97, des études épidémiologiques qui montraient qu'il y avait un signal, hein, il y avait quelque chose avec le cancer du poumon notamment, et ce rapport a été consciencieusement enterré, c'est-à-dire qu'on n'en retrouve même plus de copies dans les bibliothèques universitaires et académiques, et il a fallu aller le rechercher, enfin bref, je passe les détails, mais bref, en tout cas voilà, l'expertise était là, mais en fait elle a été simplement mise sous le tapis.
Barbara Domenech, la présence de forts intérêts économiques, puisqu'on touche au monde de l'automobile, explique, peut-être pas seulement, mais en tout cas en partie, l'absence de décision, en tout cas l'absence de traduction en décision politique de connaissances scientifiques qui datent déjà de plusieurs années.
Oui, exactement. C'est le même. Il y a un parallèle très rapidement tiré avec les perturbations de crânien, où on a tendance à voir l'activité économique, surtout l'activité de l'industrie chimique, et ne pas assez prendre en compte la santé humaine, qui est quand même à la base de la production économique. Donc, il ne faut pas être quand même un économiste très, très sophistiqué pour voir l'importance des deux. Et surtout que, bon, nous, au niveau de l'Endocrine Society, justement, on a fait on a chiffré les coûts de juste trois des substances sur le développement du cerveau et le PET de QI et l'impact économique de ce PET de QI. Et on a trouvé quand même qu'on était en train de regarder pour trois substances, un pesticide, un phtalate, un retardateur de flamme, 150 billions d'euros par an pour les maladies neurodéveloppementales. Donc, il y a vraiment les politiciens, les décideurs ne prennent pas assez en compte le coût sur la santé contre le coût de l'industrie. Quoi.
Est-ce qu'on arrive, Mathias Girel, à comprendre pourquoi justement les politiques ne prennent pas des décisions qui, a priori, semblent s'imposer? Est-ce que c'est parce qu'ils sont soumis à de fortes pressions de lobbies industriels et qui les empêchent, parce qu'ils ont des intérêts par ailleurs à prendre ces décisions? Ou bien est-ce que c'est parce qu'ils sont soumis à une forme de doute, c'est-à-dire qu'on leur propose d'autres vérités, que je mets entre guillemets, scientifiques, qui font qu'ils ont une difficulté peut-être à prendre des décisions et que les expertises ne leur permettent pas de trancher de manière claire et définitive?
Je pense qu'il y a divers types de facteurs. Il y a une première question qui est liée à la valeur qu'on attribue au savoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait. Sur le tabac, quelles qu'aient été les dénégations pendant 40 ans, aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur la dangerosité. Il reste que l'épidémie de tabac est encore devant nous. Pour le climat, l'objectif des 2 degrés, il y a très peu de chances qu'il soit atteint. C'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui. J'ai pas observé de changement drastique dans les comportements. Donc il y a aussi une inertie dans toutes les formes d'action, individuelles, politiques. S'ajoute à ça, de fait, vous le soulignez, un entretien parfois de controverses intéressées, de création de doutes. Alors, on a évoqué divers sujets, les perturbateurs endocriniens. Dans le cas du tabac, c'est parfaitement clair. Dans le cas du climat, ça a été abondamment documenté. Avec une cible, quand on crée ainsi des controverses artificielles, ce qui veut dire quelque chose de très simple, on finance par exemple des études qui vont contredire une vérité scientifique admise. Il y a une cible qui est peut-être de manière très hypothétique le grand public, mais vous avez raison, il y a une cible première qui est le décideur politique, réglementaire européen par exemple, pas seulement national, et qui va très très mal vivre une controverse vive sur un sujet parce qu'elle va perturber sa prise de décision. Et c'est ce que comprennent très bien les lobbies et ceux qui ont intérêt à attiser les controverses.
Est-ce que c'est ce que vous appelez, Barbara Domenech, la manufacture du doute? Et comment elle fonctionne, cette manufacture?
Dans le cas de la perturbation de crânien, la manufacture est... commence avec les industries chimiques qui payent soit des études en cours. Peut-être on n'est pas arrivé au point que c'était avec le tabac où il y a eu vraiment des études qui étaient payées pour montrer le fait qu'ils n'étaient pas nocifs, mais on exploite le fait qu'il y a un tout petit peu de discussion. Et ça, c'est les compagnies de l'industrie chimique vont exploiter cela pour dire qu'il n'y a pas de consensus. Oh, le fait est qu'il peut avoir consensus et c'est démontré qu'il peut avoir consensus sur les problèmes de la perturbation crânienne, sur le fait qu'il y a des effets à faible dose, qu'il y a des difficultés pour établir des soins. Et on a eu un consensus, mais même ce consensus a été détourné par l'industrie chimique.
Vous étiez déjà venu dans l'émission, Stéphane Foucard. C'était alors après l'affaire Volkswagen avec ces fameux pots qui avaient été trafiqués. Et vous nous aviez déjà raconté, mais j'aimerais bien que vous y reveniez, parce que ça a été évoqué et par Barbara Demenex et par Mathias Gérel, les méthodes qui avaient été mises en place par l'industrie de tabac. Peut-être rappeler comment, justement, on fabriquait du doute sur la nocivité du tabac. Et est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a des méthodes qui sont peut-être un petit peu moins grossières qu'elles ne l'étaient autrefois?
Autrefois, les méthodes étaient déjà très très raffinées. Quand on regarde ce qui s'est passé dès les années 50 aux États-Unis avec l'industrie du tabac, une histoire que Mathias Gérel connaît très bien, on voit que en réalité, la manufacture du doute, elle n'a pas consisté uniquement à payer des études qui disaient le contraire, des études qui trouvaient des effets néfastes au tabac. Elle a consisté surtout à financer de la très bonne recherche, de la vraie science, qui documentait des causalités alternatives. C'est-à-dire on cherchait à documenter le plus précisément possible, avec le plus de moyens possible, les causes, disons, familiales ou génétiques, personnelles, développer de l'emphysème, des troubles pulmonaires, un cancer du poumon, ce genre de choses, ou voir la pollution atmosphérique dans les centres-villes. Tout ça a été surinvestigué, en quelque sorte, par l'industrie du tabac, pour créer du doute, mais plus que du doute, c'est pour créer des représentations du monde, c'est-à-dire pour peser sur le débat public, pour peser sur la manière dont on évalue le poids relatif des risques de ceci ou cela. C'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre avec la pollution atmosphérique. Quand vous avez des intérêts très lourds qui s'affrontent, eh bien chacun va essayer de trouver chez le voisin une meilleure cause à ce qui est en train de se produire.
C'est là justement que ça devient intéressant et compliqué. C'est-à-dire parce que s'il y a des études scientifiques qui sont de fausses études, en tout cas qui arrivent à des conclusions qui sont totalement absurdes, c'est a priori, on peut se dire relativement facile à démontrer, mais à partir du moment où il y a d'autres études scientifiques qui sont plutôt bien menées, mais qui sont là pour instiller du doute, là, comment est-ce qu'on fait pour avoir derrière, Mathias Gérel, une expertise, justement, qui permette de dire, attention, il y a peut-être des études scientifiques qui disent différentes choses, mais en l'occurrence, c'est celle-ci qu'il faut retenir plutôt que d'autres. Enfin, comment ça se passe, en fait?
Il y a deux aspects. Enfin, je pense qu'on va discuter plus avant de l'expertise, mais sur l'aspect plus général de la question, très modestement, je pense que les sciences humaines, dont l'histoire, peuvent être utiles là-dedans, parce que quand on retrace, puisque vous avez pris l'exemple du tabac, les 40 ans d'activité du comité de recherche de l'industrie du tabac, qui a essayé de trouver toutes les causes possibles du cancer du poumon, sauf le tabac, ça donne, si vous voulez, un certain style aux recherches, qui est identifiable et qu'on peut retracer. De la même manière que les historiens, quand ils voient que les plus grands critiques de la dangerosité du tabagisme passif sont aussi présents, très curieusement, sur le front du climat. Il y a quelque chose de curieux que l'approche historique permet de retracer en se demandant mais comment se fait-il qu'on retrouve exactement les mêmes dénégateurs dans un domaine et dans l'autre. Et ça, très modestement, je pense qu'il y a une approche de l'histoire des sciences humaines pour retracer des itinéraires.
Ensuite, et les sciences humaines sont présentes aujourd'hui justement dans l'expertise scientifique ou pas suffisamment à votre goût?
Je pense que c'est un domaine qui est très investi. Alors, je pourrais vous citer un grand nombre de collègues français en sociologie, en sociologie, en histoire, des collègues journalistes également. Donc, c'est un domaine qui est très investi, qui est très précieux pour avancer là-dessus. Et pour vous donner juste un exemple frappant, si vous permettez, demain, on reçoit Rosner et Markowitz dans une opération de Paris Sciences Lettres à l'ONS. C'est des historiens du plomb, d'intoxication au plomb, de la silicose et de l'exposition à des polluants. Eh bien, ils sont parfois experts dans des tribunaux. Ils ont contribué à une condamnation à hauteur de plus $1 milliard de producteurs de plomb en Californie. Et donc, ce sont des historiens tout à fait, rigoureux dans l'exercice de leur travail et qui se mettent parfois au service de la collectivité de la sorte.
Barbara Demenex, quelles sont les conditions, finalement, pour qu'une expertise puisse être considérée comme suffisamment indépendante pour être valable? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, d'abord, peut-être, il faut parler des conditions de la production de cette expertise, c'est-à-dire, est-ce que ces conditions permettent aux experts d'être dénués de tout conflit d'intérêts pour que leur expertise soit justement au-dessus de tout soupçon, puisque c'est le titre de notre émission de ce soir.
Mais c'est très difficile, oui, parce que quand on est scientifique, par définition, on travaille toujours sur des probabilités, on a une hypothèse et on élabore des tests statistiques pour savoir si cette hypothèse a une forte probabilité d'être valable. Et les gens en face de nous vont exploiter cela pour dire, c'est pas certain.
Et parce qu'il faut dire, c'est-à-dire vous faites de la recherche et en face, vous allez avoir des experts. Donc, qui vont expertiser les connaissances que vous leur fournissez.
Oui, c'est ça, ou même, pire, on va avoir des gens en face qui sont effectivement payés par l'industrie chimique qui vont dire que cela, ce n'est pas du solid science, c'est du pseudo-science. Et ça aussi, c'est quelque chose qui date de la période du tabac. Donc, c'est très difficile de dire, il y a un problème. Et surtout dans le cas des perturbations de crânienne, on veut avoir à la fois le mode d'action établi sur un modèle animal, mais on veut aussi, en ce moment, la commission nous demande d'avoir des données épidémiologiques. Alors, souvent, moi j'aime bien citer les cas de choléra encore dans le 19e siècle à Londres, où John Snow avait coupé un pompe à eau qu'il avait soupçonné d'être la source d'une épidémie de choléra à Londres. Et effectivement, et plus il a pu stopper l'épidémie. Mais il ne savait pas le mécanisme d'action. Et il avait fait simplement des observations. Et aujourd'hui, nous, on est demandé d'avoir des mécanismes d'action. On demande des preuves scientifiques de plus en plus détaillées. Et au lieu de simplement appliquer un principe de précaution.
Voilà, ça c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'à la fois vous êtes obligé de prendre en compte de l'incertitude et vous êtes confronté
à
des gens qui l'exploitent et qui exploitent ce doute, Stéphane Foucard. Donc c'est là qu'on se rend compte de la difficulté de produire une expertise qui soit fiable.
Absolument. Je vais juste rebondir en deux secondes sur ce que vient de dire Barbara. Quand la Commission européenne demande des preuves épidémiologiques, il faut bien savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut attendre que les gens tombent malades et meurent pour pouvoir les compter et pouvoir dire effectivement.
Il y a eu un problème.
Voilà, il y a eu un problème avec ce produit puisque les gens sont morts ou malades. Donc il y a aussi derrière une question éthique qu'il faut pas occulter. Pour ce qui est de cette question de l'organisation de la bonne expertise, entre guillemets, je ne sais pas s'il en existe une, mais en tout cas, on peut essayer de tendre vers ça. Et on parle beaucoup de conflits d'intérêts, c'est-à-dire des liens économiques qu'il peut y avoir ou financiers entre les experts qui sont commis et les industriels intéressés à ce qui va être dit in fine au cours de cette expertise. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, tout simplement, le choix de la communauté, des communautés scientifiques qui vont être représentées autour de la table. Et c'est très important. Tout à l'heure, Mathias a parlé des sciences humaines, mais au sein même des sciences expérimentales, des sciences dures, le choix de telle ou telle discipline peut avoir un effet radical sur la décision finale. Je vais prendre juste un exemple très, très simple. Si vous demandez une expertise sur les OGM à des biologistes moléculaires, des gens qui s'intéressent à la façon dont on insère des gènes dans le génome d'une plante et pour améliorer ses vertus agronomiques, vous pouvez être certain que vous aurez une expertise qui sera globalement assez favorable à l'introduction des OGM dans la nature. Si vous posez exactement la même question à des écosystémiciens ou des gens qui s'intéressent à l'écologie scientifique, vous pouvez être certain que vous allez avoir une expertise avec une conclusion très différente. Donc ce n'est pas qu'une question finalement de lien d'intérêt ou de collusion avec les industriels, c'est aussi une question de représentation du monde et de représentation des communautés scientifiques, des gens qu'on décide de mettre autour de la table.
Ben, j'ai peut-être une solution pour faire face à cette difficulté, ce serait de faire une expertise des expertises, Mathias Girel.
Je pense que beaucoup de gens qui réfléchissent à ça, en tout cas qui réfléchissent aux conditions de transparence de l'expertise, à ce qu'il faut surveiller pour limiter les conflits d'intérêts, qui ne sont pas le seul facteur, comme l'a souligné Stéphane Foucard, mais qui sont importants et qui sont pas...
À partir du moment où il y a conflit d'intérêts, c'est-à-dire ça discrédite totalement l'expertise, non. Ou bien est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être payés par exemple par l'industrie chimique, je prends cet exemple puisqu'on parle notamment des perturbateurs endocriniens, et qui peuvent quand même fournir des informations de qualité, ou bien à partir du moment où là aussi il y a une forme de doute parce que payé par l'industrie, c'est quelque chose qui n'est pas tenable.
Le biais de financement est quelque chose de très bien étudié et on observe dans tous les cas qu'il est très très fort. C'est-à-dire que les études, alors que ce soit pour le domaine des produits chimiques, l'agroalimentaire, les études sponsorisées par une firme, en général, sont entre 4 et 8 fois plus favorables à leur sponsor que les études financées de manière indépendante. Donc c'est quand même une première raison pour les prendre avec des pincettes. Et de fait, oui, ça peut faire douter de la qualité de l'expertise, ça devrait le faire, en raison de l'argument que je viens d'évoquer, même si les experts eux-mêmes sont parfois les derniers à se rendre compte de ce biais qui est imposé à leur discours. Donc ça me semble extrêmement important. Le problème de l'expert en situation de conflit, c'est non seulement on peut pas tellement lui faire confiance ou nous faire une confiance totale dans ses conclusions, c'est que même s'il se trouve avoir raison, là aussi on a des difficultés à lui faire confiance.
Est-ce qu'on n'attend pas un petit peu trop de l'expertise et des experts, Mathias Girel, enfin en attendant peut-être une forme de pureté, c'est-à-dire de quelqu'un qui serait absolument totalement étranger à toute forme de conflit d'intérêts, que ça soit des conflits d'intérêts économiques ou des conflits d'intérêts qui peuvent être d'ordre politique ou idéologique, disons.
Oui, vous avez raison de signaler le fait que le conflit d'intérêts n'est pas seulement matériel et financier. Il y a un certain nombre d'autres considérations vis-à-vis des politiques environnementales, par ailleurs, qui peuvent avoir d'autres ressorts. Est-ce qu'il y a un expert parfait? Je ne pense pas. Il n'y a déjà pas de définition pure et parfaite de l'expert. C'est-à-dire que quand on regarde les textes, c'est quelque chose qui a été très bien souligné par Marie-Angèle Hermite, par exemple. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui a un savoir, qui assiste un décideur, qu'il sollicite à prendre une décision ou à informer une décision. Et puis au-delà de ça, on ne va pas pouvoir vous donner de critères plus propres de l'expert. Mais en tout cas, la limitation des conflits d'intérêts et disons le plus grande transparence possible me semble être un impératif important.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Peut-on produire une expertise scientifique au-dessus de tout soupçon? C'est la question que nous posons ce soir à Mathias Girel, qui dirige le département de philosophie de l'ENS, à Stéphane Fouquer, qui est journaliste scientifique pour le journal Le Monde, et Barbara Domenech, qui est professeur, qui est biologiste, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, qui a signé cette tribune qui a été publiée dans Le Monde la semaine dernière, Perturbateurs endocriniens, halte à la manipulation de la science, tribune dans laquelle alors vous proposez, pour essayer peut-être justement d'avoir une expertise qui puisse permettre véritablement des décisions politiques, collectiviser, si j'ose dire, de prendre le modèle du GIEC. C'est-à-dire, à partir du moment où on se dit l'expert parfait n'existe pas, mais peut-être que de bons experts qui travaillent ensemble, ça pourrait permettre de lever les doutes et les ambiguïtés. Est-ce que c'est bien ça?
C'est exactement ça, oui. Un peu comme aussi le panel intergouvernemental sur la biodiversité. Et oui, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des autres initiatives dans ce domaine. Et non seulement il y a urgence dans chacun des domaines, et on a bien souligné le problème des conflits d'intérêts qu'il faut clairement prendre en compte, et la diversité des experts. Mais une chose que je voudrais dire sur quand on adresse le problème du changement climatique, les problèmes de la perte de la biodiversité ou la perturbation endocrinienne, il y a quand même une commonalité. On dit ça? Commonalité?
Enfin, on va dire, ce sont des sujets communs. Non, mais oui, c'est un joli mot, en tout cas.
Et il y a un élément commun qui est quand même l'exploitation, la surexploitation des énergies fossiles. Et chaque effort qu'on fait pour trouver des énergies alternatives, on va à la fois limiter la contamination qui va produire le changement climatique, la perte de la biodiversité et par définition aussi la perturbation endocrinienne.
Donc ça veut dire quoi? Plutôt que de créer un deuxième GIEC, enfin alors qui s'appellerait pas le GIEC, mais qui serait un comité d'experts qui se chargerait de ces questions, on pourrait plutôt élargir le GIEC à des chercheurs sur les perturbateurs.
C'est pas ce qu'on a écrit dans le Tribune, mais c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus. Mais disons, dans le Tribune, on dit il faut faire quelque chose sur la perturbation endocrinienne. Mais ce que je dis en plus, c'est que chaque geste qu'on va faire, chaque action internationale ou nationale qu'on va suggérer serait presque par définition quelque chose qui va aussi aider pour lutter contre le changement climatique et pour attaquer ce problème de perte de la biodiversité. Parce que je peux parler longuement sur ça, mais je vais laisser la parole aux autres.
À Stéphane Fouquer, par exemple, le GIEC, justement. Est-ce que le GIEC, ça vous semble être une démarche assez exemplaire de ce qu'il faudrait faire pour justement sortir de, enfin en tout cas aboutir plutôt à des consensus scientifiques? Ou bien est-ce que bah, finalement si on regarde la date de création du GIEC et les véritables décisions qui ont été prises ou qui attendent encore d'être prises, c'est quelque chose qui fonctionne mais pourrait fonctionner beaucoup mieux qu'aujourd'hui?
Alors, au risque d'être un petit peu provocateur, moi je dirais que le GIEC a produit une expertise qui a été saluée unanimement pour sa qualité scientifique, les précautions prises, sur toute la démarche qui a été mise en œuvre pour rassembler de très très vastes communautés scientifiques autour d'un même sujet, autour du climat. Tout ça a été très vertueux. Et en définitive, est-ce que tout ça a été efficace? En réalité, pas du tout. Et en réalité, si on réfléchit aux choses en historien, hein, comme le suggérait tout à l'heure Mathias Girel, on se rend compte que quelque part, la création du GIEC, elle a été une fabrique de lenteur, quoi. Elle a été une énorme machine à retarder l'action. Si on regarde ce que publiaient les spécialistes du climat à la fin des années 70, déjà en 1979, on avait un rapport qui a été commandé, qui avait été commandé par l'administration Carter à l'Académie des sciences américaines et qui a fait un rapport de consensus, hein, qui était beaucoup plus petit que les rapports du GIEC, hein, qui faisait quelques dizaines de pages, sur cette question précise du CO2, hein, des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Et ce rapport, hein, qui est toujours disponible en ligne, hein, disait de manière extrêmement claire, il est certain, autant qu'on puisse le dire en tant qu'expert, que l'ajout de gaz à effet de serre va intensifier l'effet de serre, ce qui n'est pas très contre-intuitif, et que ça va donc augmenter les températures et que ça va poser des problèmes. Et les chiffres qui étaient donnés sur la sensibilité, par exemple, du climat terrestre au dioxyde de carbone dans ce rapport Charney de 1979 n'étaient pas très différents de ceux qu'on donne aujourd'hui, en 2015, avec des supercalculateurs et une connaissance qui est beaucoup plus vaste. Donc,
et pourquoi est-ce que ça a ralenti? Parce qu'on a multiplié les études alors qu'on connaissait déjà le résultat
de celle-ci? Parce qu'on a institué un groupe d'experts qui rendait des rapports très volumineux tous les 5 ans et qui cherchait finalement, ce qu'on a demandé à ces experts, c'est d'arriver avec un niveau de certitude absolu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un niveau absolu de certitude vu l'enjeu? Et je pense que sur la question des perturbateurs endocriniens, il y a un risque qu'effectivement on crée un GIEC des perturbateurs endocriniens, un GIEC de la chimie, mais que précisément on demande à ce groupe d'experts d'atteindre des niveaux de preuves absolument extravagants et qu'on commence à agir d'ici 20 ou 30 ans. Quoi.
Mathias Girel.
Non, je suis assez d'accord avec le constat qui vient d'être fait par Stéphane Foucard, dans la mesure où, quel que soit le consensus des experts du groupe 1 du GIEC, il est vrai que, disons, les politiques assez drastiques qui devraient s'en suivre dans les États, on ne les a pas encore observées. Donc ça, c'est quand même un aspect important.
En même temps, rien ne dit que sans le GIEC, des décisions politiques plus affirmées auraient été prises.
C'est possible. C'est possible. Un des intérêts, quand même, il me semble, des travaux, l'ensemble des trois groupes, mais notamment du groupe 1, il me semble que ça a quand même relativement stabilisé dans le discours ce qui était certain ou à peu près quant aux déterminants du changement climatique, notamment le type de forçage, et donc le rôle des gaz à effet de serre, de préciser ce sur quoi il restait encore une petite incertitude, l'évolution de la mousson ou un certain nombre de phénomènes qui sont aussi bien étudiés. Et ça peut être intéressant parce que ça permet de faire aussi un diagnostic des ignorances qui restent dans le domaine. J'étais frappé tout à l'heure par ce que disait Barbara Demenech sur le fait que voilà, les études qu'on a, elles portent sur un petit nombre de molécules. Ça peut être intéressant de le rendre sensible parce que ça peut permettre de dessiner des directions pour la recherche à venir. Et donc, non seulement prendre la mesure de l'ignorance qu'on a sur l'ensemble des molécules dans lesquelles nous baignons tous, ça c'est une première chose, et aussi peut-être de l'absence d'études, de solutions de rechange par rapport à ces molécules qui sont éventuellement dangereuses, pas seulement risquées, mais dangereuses.
Oui. Barbara Demenech.
Oui, mais surtout, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, mais surtout les molécules dangereuses et qui, parce qu'on n'a pas des tests à l'auteur de ce qu'on attend, on fait ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi, regrettable substitutions, ou des substitutions regrettables.
Regrettables.
Oui, ouais. Parce que le BPA, on a eu cette publication qui est sortie hier, que les femmes enceintes sont contaminées par des centaines de substances. Et que, une bonne nouvelle, le BPA, il commence à baisser. Ben, il a été remplacé sans doute par le BPS, qu'il n'était pas
évalué. Alors, pardon, le BPA et le BPS, je dois dire que là...
Ah bon, le BPA, c'était le molécule qui a été interdit par la France dans les biberons.
Ah, c'est le bisphénol A,
oui, d'accord. Oui, voilà, excusez-moi,
le bisphénol A. J'ai raccroché.
Oui, pardon, excusez-moi, désolé.
Et remplacé donc par le bisphénol S.
Oui, et qui a sans doute, après les études qu'on a vues, sans doute aussi mauvais. Donc, c'est vrai, il faut... fait des efforts. Je pense que... passons.
Par rapport à... je voudrais revenir peut-être juste un instant au GIEC, puisque alors, d'accord, vous nous dites le GIEC, ça a peut-être contribué à ralentir la prise de décision. En même temps, ça a permis quand même, au moins pour le groupe 1, puisqu'il y a trois groupes dans le GIEC, donc de fixer en tout cas certaines connaissances. Pour autant, ça n'a pas contribué à éteindre toute controverse, puisque c'est dans l'actualité, celui qui est nommé à la tête de l'agence américaine de l'environnement par Donald Trump, il s'appelle Scott Pruitt et il est identifié comme étant un climato-sceptique. À quoi est-ce que vous attribuez le fait que malgré ces connaissances-là qui sont établies, malgré le fait qu'il n'y ait pas de controverse dans le monde scientifique, on en soit encore à évoquer et à donner la parole aux climato-sceptiques. Est-ce que ça peut être, par exemple, aussi le fait que nous, journalistes, on se sente peut-être parfois obligés de donner la parole, disons, aux deux camps, en se disant il faut être équilibré, donc il faut aussi donner la parole à ceux qui contestent ces données scientifiques. Stéphane Foucard.
Oui, alors ce qui se passe aux États-Unis est un petit peu particulier quand même par rapport au reste du monde. Il y a un très bon livre qui est sorti il y a quelques années de Naomi Oreskes et Eric Conway qui dit en substance que le pays dans lequel le fondamentalisme de marché a le plus de prise, c'est-à-dire les États-Unis, est aussi le pays dans lequel la contestation de la réalité du changement climatique anthropique est la plus enracinée, et probablement parce qu'à la fin des années 80, il y a eu une forme de croisade d'un certain nombre de personnalités issues du monde scientifique, bizarrement, pour attaquer cette connaissance qui, en elle-même, finalement, est la démonstration que les marchés sont profondément imparfaits. C'est-à-dire que vous laissez le marché fonctionner et puis vous avez une catastrophe d'ampleur géologique. Donc c'est pas absolument conforme au dogme du marché. Donc c'est essentiellement, à mon avis, ce genre de confrontation qui crée cette situation particulière aux États-Unis où effectivement vous avez des climato-sceptiques, à commencer par le président élu qui ne cache pas ses opinions sur le sujet.
Barbara Domenech.
Oui, il veut rendre l'Amérique great again, et une des manières, c'est de produire et changer le Rust Belt dans quelque chose de nouveau actif, et ça veut dire ignorer totalement les scientifiques qui eux, au principe de précaution dans ce cas de figure.
Alors les scientifiques qui sont confrontés à cette difficulté, à ces contre-enquêtes ou à ces controverses qui, sous couvert d'études scientifiques, instillent le doute. Et puis il y a aussi peut-être un autre phénomène dont on n'a pas encore parlé, Mathias Girel, qui est peut-être une forme de suspicion, alors si ce n'est généralisé, mais enfin en tout cas qui semble s'étendre à l'égard de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un expert. En tout cas, est-ce que l'expertise scientifique est vraiment aussi fragilisée par rapport à ce phénomène-là aujourd'hui?
Alors, bon, il faut rappeler qu'elle est, nécessaire. Hein. C'est ce qui permet aussi d'informer les décideurs de l'état de la science. Donc, il ne s'agit pas de jeter aux orties l'expertise qui est omniprésente de toute façon auprès du politique, auprès des assurances. On a besoin d'experts, mais c'est cette suspicion généralisée. C'est pas une suspicion à l'égard de la science et de la technologie, comme on l'entend souvent. Je pense qu'il y a un grand appétit vis-à-vis de ces domaines. Mais il est vrai que, disons, un certain nombre d'exemples, d'experts, je pense à un pneumologue notamment, dont on découvre qu'il est en fait le médecin conseil d'un grand groupe pétrolier. Évidemment, ça jette le doute sur toute une profession. Donc je pense qu'il y a un sacré ménage à faire, une vigilance épistémologique de la communauté à exercer vis-à-vis des représentants de la science, de ceux qui interprètent la science auprès des décideurs.
Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir la tentation à laquelle on peut être tous soumis, d'ailleurs, de se considérer, nous aussi, comme experts, en tout cas, d'être légitime à participer à la production d'une expertise scientifique? On parle beaucoup du renouvellement démocratique aujourd'hui. Il se joue aussi dans les questions scientifiques. Mathias Girel.
Oui, on recevait la semaine dernière, dans un autre cadre, le sociologue Scott Frickel, qui est à l'université de Brown, et qui a étudié les les mobilisations collectives, alors, où les gens ne se transforment pas forcément en experts eux-mêmes, ils peuvent le devenir, mais en tout cas, ils sont le porteur de questions importantes qui devraient être traitées par la recherche scientifique. Je pense par exemple à des collectifs de riverains de sites de production chimique et qui voilà, s'émeuvent du fait qu'on a des chiffres très stables sur les moyennes d'exposition, sur des longues périodes, mais pas beaucoup sur les pics d'exposition, là où ils habitent. Et donc, ils arrivent à se mobiliser, non pas pour fabriquer eux-mêmes leur expertise, mais déjà pour porter cette question sur l'agenda de la recherche. Il se trouve qu'en outre, ils ont réussi à développer un moyen de collecte qui était reconnu par les laboratoires et qui a permis de constituer des éléments de preuve. Donc je pense qu'il peut y avoir une collaboration avec la production de la recherche et puis parfois des demandes de questions importantes. Et je pense que les perturbateurs relèvent aussi de ce type de demandes importantes.
À condition, Barbara Domenech, que le monde de la recherche, le monde des scientifiques, accepte aussi ces intrusions du grand public dans la production.
Mais non seulement on l'accepte, mais on essaie de l'aider. Par exemple, il y avait une consultation publique par la Commission européenne au moment de l'année dernière sur qu'est-ce qu'il fallait faire sur la perturbation de Crounien. Effectivement, le public a été un peu perdu et donc ils se sont retournés vers les associations, ils sont retournés vers la société d'endocrinologie qui a expliqué les différents choix, les différentes options qui étaient devant eux. Malheureusement, la Commission européenne a complètement ignoré toute contribution qui a été clairement identifiée comme venant de la grand public via des recommandations, que ce soit de l'Endocrine Society.
Pour quelle raison, à votre avis?
Oh, ils trouvaient que c'était trop dirigé. Je ne me souviens pas de comment ils ont réussi à balayer ça, mais ils ont totalement ignoré toute contribution qui est venu du public. Et là, franchement, je pense que on devrait être en train de rouspéter, on devrait être en train de dire que ça va pas, quoi. Pourquoi ouvrir une consultation grand public et ignorer les contributions qui sont faites par le public?
Comment est-ce qu'on peut mettre en place une forme d'expertise citoyenne scientifique, Stéphane Foucard? En tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui doit être examiné, réfléchi?
Expertise citoyenne, je ne sais pas, mais à mon avis, la première chose à faire, c'est de changer profondément les structures d'expertise qui existent aujourd'hui, par exemple, au niveau européen. Parce que vous avez des institutions comme l'EFSA, par exemple, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui donne des autorisations de mise sur le marché au niveau européen pour tout ce qui est pesticides, matériaux au contact des aliments, etc., etc., comme l'Agence européenne du médicament, qui sont les institutions qui fonctionnent de manière structurelle en situation de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que, par exemple, les experts externes commis par l'EFSA sur tel ou tel sujet ne sont pas payés ou quasiment pas. C'est quasiment un petit défraiement.
Et je crois que c'est à l'EFSA qu'on doit cette phrase, les perturbateurs endocriniens peuvent être traités comme la plupart des substances préoccupantes pour la santé humaine et l'environnement, ce qui contribue à rendre extrêmement difficile l'apport de la preuve de leur dangerosité.
Exactement. Phrase dont on a démontré d'ailleurs qu'elle avait été écrite avant même que le rapport lui-même ne soit achevé, ce qui en dit quand même très très long même sur l'intégrité de l'ensemble du processus. Donc comme ça, vous avez des agences, soit qui sont directement financées par les industriels qu'elles sont censées réguler, soit qui ne rémunèrent même pas leurs experts. Donc les experts, structurellement, les gens ne passent pas leur week-end spontanément et de manière volontaire pour avaler des kilomètres de littérature scientifique et pondre des rapports de plusieurs centaines de pages. Il y a forcément la tentation qu'on va monnayer ou qu'on va se faire plus ou moins rémunérer au titre de consultant, etc., pour sa participation à ces panels d'experts dont les décisions sont très importantes pour les industriels. Donc, la première chose à faire, à mon sens, c'est de faire un petit peu le ménage, et en particulier au niveau européen, dans ces instances d'expertise qui fonctionnent pas bien, tout simplement.
Barbara Domenech, je rappelle donc que vous êtes une des signataires de cette tribune qui a été publiée dans Le Monde la semaine dernière. Quels échos vous avez eu suite à la publication? Est-ce que vous avez l'impression que ça change un petit peu des choses? Vous appelez notamment, d'ailleurs, vos collègues scientifiques, enfin ceux qui n'interviennent pas trop dans le débat public, vous leur dites, alors c'est pas exactement de cette manière-là, mais en gros c'est sortez de vos labos et prenez un petit peu la parole, quoi. Ne restez pas uniquement dans vos recherches, en pensant que le monde extérieur n'existe pas.
Ben, je dis cela. Bon, moi, je peux me le permettre. Je suis en fin de carrière. Mais les gens sont autour de moi. C'est vrai, ils sont difficiles. L'expertise n'est pas comptée dans leurs évaluations pour les promotions, etc. Mais je crois qu'on est arrivé à un point où, effectivement, on doit s'engager et vraiment essayer de être actif. On a quelques mois devant nous avant que la décision soit prise au niveau européen et vraiment c'est le temps d'être actif.
Juste quelques mois, ça veut dire on sait à peu près quand ça doit être pris.
Moi, je ne maîtrise pas l'agenda, mais j'approuvais le propos. Je pense qu'on oppose de manière un peu fausse neutralité et objectivité. Je pense qu'il y a un moment où se taire, ce n'est pas être neutre, c'est acquiescer à ce qui est en train de se dessiner. Et je pense que quand on voit, disons, des scénarios un peu inquiétants qui se dessinent, en tant que chercheur, en tant que scientifique, c'est une des parties du service qu'on doit à la société qui finance notre recherche que de les indiquer.
Neutralité, objectivité, ça aussi une préoccupation dans le milieu du journalisme. Merci en tout cas beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Barbara Domenech, Stéphane Foucard et Mathias Girel. Émission que vous pouvez réécouter comme chaque soir sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Isolde Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Pascal Baudin. Demain ce sera notre club des idées du vendredi. Et on se demandera si on y voit un petit peu plus clair dans l'offre politique à moins de 6 mois de la présidentielle.